Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent.
Oh, mais j'adore l'abstrait!
Vous parlez des fesses de votre grand-mère.
C'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresque et d'exotisme.
Un régal de culpabilité chrétienne.
Vous savez qu'elle fait de la peinture.
Pourquoi la dame, elle est toute nue?
Coucou vous! Bienvenue dans cet épisode bonus de Vénus s'épilait-elle la chatte? Cet épisode, c'est une conversation enregistrée au Paris Podcast Festival où l'épisode sur Picasso a remporté 3 prix, ce qui me dépasse totalement. Donc je remercie de tout cœur les personnes qui ont voté, les personnes qui ont écouté, partagé cet épisode et puis toutes celles qui étaient là lors de cette rencontre parce que ça faisait trop plaisir de vous rencontrer en vrai. Cette discussion a été animée par Noémie Gmur, qui est podcasteuse et autrice de l'art du podcast, que je recommande chaudement à toutes les personnes qui auraient envie de se lancer. On a parlé des coulisses de Vénus, de comment je fabrique les épisodes, comment le podcast est financé, quels seront les prochains sujets, et aussi de pourquoi il n'y a pas eu d'épisode depuis Picasso. Spoiler alerte, c'est parce que j'ai été complètement dépassée par les événements, par le retentissement qu'a eu cet épisode, et pendant plusieurs mois j'ai été complètement bloquée parce que je me disais que tout ce que je ferais après ce serait forcément moins bien. Cette rencontre, elle a été enregistrée en octobre et les choses ont pas mal évolué depuis. Donc j'ai la joie de vous annoncer que le prochain épisode de Vénus sortira au printemps. Et en attendant, j'espère que cet épisode bonus vous plaira.
Bienvenue. Ça va être une rencontre avec Julie Bozac, qui est la créatrice du compte Instagram et du podcast Vénus et puis l'état la chatte. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Quel est ton parcours?
Mon parcours, oui, il n'y a pas. Bah déjà, merci beaucoup à tout le monde d'être venu, de venir s'enfermer avec des masques alors qu'il fait si beau dehors. C'est vraiment, ça me va droit au cœur. Donc ouais, comme Noémie disait, moi je m'appelle Julie Bozac, j'ai créé le podcast et compte Instagram Vénus épilait-elle la chatte. Qu'est-ce que t'entends par mon parcours? Pourquoi j'ai créé ce podcast?
Pourquoi, ouais, qu'est-ce que...
ouais. En fait, moi j'ai eu un parcours académique assez classique, quoi. J'ai fait des études d'histoire de l'art à la fac. Je connaissais pas l'école du Louvre et une des profs de la fac m'en a parlé. Donc je me suis dit, ah, ça a l'air cool, j'y suis allée. Ça a été un peu violent parce que moi je venais de banlieue, j'avais pas de particules et à l'école du Louvre ça passait mal, quoi. J'ai travaillé dans des galeries d'art pendant 2 ans et demi. Puis c'était horrible. Donc au lieu de faire un burn-out, j'ai démissionné, puis j'ai quitté Paris, je suis allée m'installer à Berlin. Et j'ai carrément arrêté d'aller dans les musées, quoi. J'étais dégoûtée, quoi, de tout cet univers-là, donc j'ai pas mis les pieds dans un musée pendant 4 ans, 5 ans. J'ai fait des boulots alimentaires, ça me convenait très bien, voilà. Et puis en fait, au bout de 4 ans, je suis retournée dans les musées parce que ça me manquait. Et je suis tombée à Munich sur une œuvre qui s'appelle l'école de danse d'un artiste qui s'appelle Ernst Ludwig Kirchner. Je ne sais pas si je prononce bien. Et j'ai halluciné parce qu'en fait, il y a 2-3 personnages, un homme qui est habillé et 2 femmes qui sont à poil. Et en fait, il n'y a aucune raison pour qu'elles soient à poil. Et ça a commencé comme ça, en fait. Ça a été un peu une prise de conscience progressive à me dire, mais en fait, y a quand même masse de scènes de viol, de scènes où les femmes sont objectifiés, qui sont à poil sans raison, et pourquoi en fait, pourquoi? Et je me suis rendu compte que malgré mes 6 années d'études en histoire de l'art, qui étaient quand même plutôt des études de qualité, quoi, j'avais l'impression, en fait ça restait un angle mort et c'était un truc qui n'avait jamais été abordé. Et je me suis dit, il faudrait en parler. Alors j'ai pas du tout inventé l'eau chaude, hein. Plein de gens avaient fait ça très bien, bien avant moi, hein. Depuis les années 70, il y avait beaucoup de choses sur le sujet, mais en fait c'était ça n'arrivait pas jusqu'à l'enseignement et ça n'arrivait pas jusqu'au musée, et donc c'était pas du tout des angles d'études accessibles au grand public. Et donc c'est venu comme ça. Et moi au début, un peu naïvement, comme j'ai une formation académique, je m'étais dit je vais écrire un livre. Et en fait, une copine, Annelise, que je cite parfois à la fin des épisodes parce qu'elle a un rôle majeur dans ce podcast depuis ses débuts, Annelise m'a dit en fait, t'habites plus à Paris depuis des années, tu connais personne dans le monde de l'édition, enfin, tu sais, tu vas t'épuiser pendant 2 ans à faire un bouquin en n'ayant même pas de maison d'édition, enfin, c'est un peu con. Elle me l'a pas dit comme ça, mais elle me l'a dit avec beaucoup plus de diplomatie. Mais elle me dit, fais pas un bouquin, c'est un peu con, fais un podcast. Et moi, j'étais là, mais c'est une idée de génie. Et en même temps, moi, j'étais folle de podcasts, quoi. J'en écoute, au moins 5 par jour, tous les jours, dès que je me réveille. Enfin, voilà. Et donc, j'étais trop intimidée. Après, ça s'est fait. J'ai appris un peu sur le taf. On va en parler plus tard. Mais voilà. En gros, j'ai fait des digressions comme d'habitude. Mais en gros, voilà, cette idée, elle est partie comme ça.
Et comment t'as sauté le pas, justement?
J'ai procrastiné pendant tellement longtemps. Enfin, non, mais vraiment, j'ai pas de recette. Franchement, j'étais là, je veux faire ça, Ça s'appellera Vénus et Piételle la chatte. C'était le seul truc que j'avais en tête. Ça a duré des plombes. Franchement, j'ai procrastiné. J'ai fait que ça. À en parler à tout le monde, à dire j'ai envie de faire ça. Non, même pas à dire ça va être trop bien et tout. Hein, juste à dire j'ai envie de faire ça. Et puis les gens ils me disaient fais-le. Et je savais pas quoi répondre. C'est, j'étais là genre mais c'est compliqué. Enfin, j'ai rencontré à Berlin Diala Doucouré qui a le podcast 2400, qui est un podcast qui parle de menstruation. Enfin, franchement, écoutez-le, c'est super. Et je savais pas qu'elle habitait aussi à Berlin. Et quand je m'en suis rendu compte, je lui ai écrit. Et je lui ai dit, viens, on va boire un... Enfin, viens, non, pas du tout. Je lui ai dit, est-ce que tu accepterais de boire un café avec moi? Et comme elle est super, elle m'a dit oui. Et je lui ai dit, je vais poser cette question. Je lui ai dit, toi, qu'est-ce qui t'a fait commencer, quoi? Parce que moi, ça fait 6 mois, voire 1 an, que je me dépatouille avec mon syndrome d'imposture et ma procrastination et que je réfléchis dans ma tête, mais que je fais rien. Et je lui ai dit, voilà, ça a été quoi, toi? Et s'il y a eu un déclic, qu'est-ce qu'il a été? Et elle me dit, en fait, je me suis rendu compte que les mecs se posaient pas cette question et qu'ils y allaient. Et je lui ai dit, ok, c'est une bonne réponse. D'ailleurs, on s'est revu il n'y a pas longtemps et je lui ai rappelé ça. Elle me dit, je me rappelais plus que je t'avais dit ça. Ouais, c'est une bonne réponse. Et j'ai gardé ça en tête. Et c'est... Après, ce n'est pas miraculeux. Hein, c'est juste, enfin, on ne fait pas les choses comme ça. Et voilà. Mais en tout cas, ça a été une bonne impulsion quand elle m'a dit ça. Je me suis dit, elle a raison. Et c'est dommage de continuer à se gratter le cul devant Netflix. Hein, qui était... Donc merci à elle. Je sais pas si elle... Non, je crois pas qu'elle soit là aujourd'hui. Mais c'est heureusement qu'elle m'a dit ça, ouais.
Et donc t'as lancé après ton premier épisode, qui était sur quoi?
Qui était sur les autoportraits de femmes artistes, qui en fait revenaient sur toutes les contraintes que les femmes artistes depuis au moins la Renaissance tout ce qu'elles avaient dû contourner en fait, parce qu'elles n'avaient pas accès aux académies, l'équivalent des écoles d'art à l'époque, et comment, en fait, à travers les autoportraits, elles arrivaient à revendiquer un statut d'artiste, elles arrivaient à contourner un certain nombre de codes de représentation de façon finalement assez badass. Et quand on les regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, on le voit pas forcément. Et en fait, c'était intéressant avec Frances Borsello, qui est géniale, quoi, qui est une chercheuse anglaise super badass, trop marrante, qui en fait permettait d'éclairer un certain nombre de choses, des citations, le fait qu'elle se représente avec une palette ou un costume d'homme, ou voilà, que c'était en fait des transgressions que nous on perçoit pas, mais qui étaient des choses très 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 osées finalement pour l'époque, dans un contexte très rigide.
Comment tu conçois du coup un épisode? Parce qu'il y a une bonne partie qui est dans la recherche, la documentation. Est-ce que tu pourrais partager?
Franchement, j'ai pas de méthode, je galère. Enfin, j'aimerais bien avoir une méthodologie. Ça s'améliore petit à petit, parce que maintenant j'ai fait peut-être 5 ou 6 épisodes. Donc ça s'améliore, mais on en parlait un petit peu avant que la rencontre commence. C'est très solitaire comme processus. La première chose, c'est de trouver un sujet et de trouver une personne qui a déjà écrit sur ce sujet, ce qui est finalement pas évident, parce qu'il y a plein de thèmes qui restent encore des angles morts. Donc ça, c'est déjà une première partie. Ensuite, de contacter les gens et qu'ils et elles soient d'accord. Déjà, qu'ils et elles répondent, c'est rare. Hein, voilà. Ensuite, il y a tout un travail de recherche où je lis les bouquins, je prends des notes et je prépare les interviews en parallèle. Ensuite, les interviews qui, moi, me mettent dans un état de stress. Même après, en en ayant fait une dizaine ou quoi, ça, j'ai toujours peur de poser des questions bêtes, de prendre le temps des gens. Enfin, voilà, donc c'est toujours un gros truc, les interviews. Et après, l'écriture, moi, c'est la partie la pire, je trouve. Parce qu'il faut prendre ce que disent les gens, ne pas dénaturer ce que les interviews disent, les interviewés disent, pardon. Et en même temps, faire de la vulgarisation, quoi, c'est-à-dire remettre dans le contexte, donner des clés de lecture, donner des infos, et faire en sorte que tout ça soit fluide, et que tout ça soit accessible et compréhensible, et que les gens se disent pas, attends, on comprend rien, elle part dans ses délires. Ce qui est normal, hein, en fait, quand on écrit, on se laisse un peu aussi happer par des détails. Moi, j'ai ce gros défaut. Donc ça, c'est très difficile, mais j'ai mon amie Annelise, dont je parlais tout à l'heure, qui relit tous les scripts, et qui fait ce travail justement de me dire ça on comprend pas trop, ça on s'en fout, c'est du détail, ça mérite d'être développé et tout. Donc ça c'est vraiment très très précieux d'avoir une personne comme ça qui est pas spécialiste en histoire de l'art et qui peut ajuster. Ensuite le montage, ouais, c'est long, mais moi j'aime bien le montage parce que je réécris au fur et à mesure, justement pour que ce soit fluide et pour que ça fasse pas texte lu et tout. Donc je réenregistre, c'est vraiment du bricolage, c'est très très artisanal. Mais j'aime bien le montage parce que justement en général j'ai passé des semaines voire des mois à me débattre avec une masse d'informations énorme et en fait un peu abstraite. Et moi je trouve ça très réjouissant en fait d'avoir... tu vois le truc qui en fait tous les jours grandit quoi. Tu sais qu'à la fin de la journée t'as un quart d'heure, c'est pas un quart d'heure définitif, mais ça prend déjà forme, ça donne déjà une idée de combien de temps l'épisode va durer, parce que moi quand j'enregistre quoi, je n'ai aucune idée hein, donc c'est vraiment au montage que je me rends compte à peu près de la durée, de s'il y a des choses à reprendre ou quoi. Et ensuite mixage, ça je le délègue à Laureline Dabadi qui est ingénieure du son. Et comme ça, c'est vraiment très, très technique. Ça, c'est possible de le déléguer. Et puis moi, je n'y connais rien en mixage. C'est vraiment une compétence à part. C'est vraiment... le mixage, en gros, c'est vraiment ajuster tous les volumes. Voilà, je ne suis même pas capable d'expliquer ce que c'est. Quoi. Enfin, c'est en gros ce qui fait la différence entre un épisode fini mais qui a l'air un peu artisanal et un truc qui va avoir l'air totalement pro et fini quoi, que vraiment d'ajuster les différents volumes, tout ça. C'est ça, tu connais mieux que moi toi.
Oui, en gros oui. C'est... bon. Mais et du coup comment tu parlais du temps de travail, un épisode c'est à peu près combien de temps de travail?
Franchement je sais pas, je...
sur le dernier par exemple, sur Picasso,
je compte pas parce que ça me rend ouf après quoi, mais Picasso ça m'a pris 6 mois, c'est-à-dire que j'ai commencé les premières recherches, vraiment lire les premiers bouquins, prendre les notes début décembre, il est sorti mi-mai. Après j'y ai pas travaillé tous les jours, mais c'est l'affaire de 2-3 semaines tu vois. Et quand j'écrivais, tu sais, t'écris pas tous les jours 8 heures par jour, enfin, c'est difficile. En plus, c'était un processus vraiment douloureux d'écrire Picasso, parce que tu te rends compte de, tu vois, de parler de la figure du génie, à quel point on idolâtre les hommes, à quel point, en fait, tout le monde savait, personne n'a rien dit. C'est désespérant, en fait, d'écrire là-dessus et d'arriver à en sortir quelque chose. Donc, c'est difficile d'évaluer, je dirais, à temps plein, 4 mois et demi, 5 mois, à temps plein. Ce qui n'est pas énorme finalement, enfin je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte. Mais ça c'était un peu extrême Picasso, les autres m'ont pris un peu moins de temps. Ouais.
Tu as eu plusieurs expériences du coup avec le crowdfunding pour générer des revenus. Donc la première fois c'était où tu avais lancé un agenda mal poli.
Ouais.
Est-ce que tu veux déjà peut-être nous raconter ça et après voir comment tu en es venue à Patreon?
L'agenda Malpoli, c'est encore une idée d'Anne-Lise, qui est vraiment la meuf a une bonne idée par seconde, quoi. Et l'idée, c'était de faire un objet dérivé du podcast, mais on ne voulait pas faire, des goodies, quoi. On ne voulait pas faire des objets polluants, pas durables. Donc, on a travaillé avec Brandbook, qui est une société de fabrication de papeterie qui est basée à Francfort, qui font des trucs vraiment super et qui nous ont suggéré de faire un agenda non daté pour qu'il puisse être réutilisé, déjà vendu sur pas que l'année 2022 ou 2021. Donc pas périssable et puis être utilisé pendant plusieurs années si on veut. Et du coup, j'ai sélectionné 12 œuvres, une pour chaque mois, qui en fait donne, c'est pas complet, c'est pas exhaustif évidemment, mais en fait donne un aperçu des mécanismes de domination dans l'histoire de l'art, donc la culture du viol, l'objectification, le racisme, l'hypersexualisation, voilà. J'en ai pris 12 qui en fait se complètent. J'ai écrit un petit texte qui fait une page pour chaque œuvre et on a vraiment essayé de créer un objet le plus intelligent, le plus durable possible, avec des matériaux qui viennent pas exactement de Francfort mais pas loin, quoi, de Stuttgart am Main, c'est de là que vient le papier. Et on l'a fait sur Ulule parce que on voulait faire ça de façon indépendante et qu'en fait la fabrication d'un objet comme ça coûte très cher. On en a eu pour quasiment 20 000 euros d'impression de tous les exemplaires et le passer par le financement participatif, en fait, c'était le seul moyen de financer la production, les envois et tout, parce que le principe du financement, c'est que les gens payent quelques semaines ou quelques mois avant de recevoir leur objet. Et donc, on a pu récolter les fonds suffisants pour financer la production.
Et quelles ont été un peu les leçons que tu as eues après cette expérience ? Parce que du coup, tu n'avais pas forcément de l'expérience ni dans l'édition, ni dans la production, ni dans la communication.
Que c'était du boulot. C'était vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Il faut faire beaucoup de pédagogie aussi, justement pour expliquer des modes de vente, voilà, comme ça, qui sont pas forcément évidents. Enfin, même moi-même non plus, j'y connaissais rien, hein, avant de lancer cet agenda. Édition, j'y connais toujours pas grand-chose, honnêtement. Mais en tout cas, moi, ça m'a plu de faire quelque chose en toute indépendance, quoi, vraiment du début à la fin. On a été aidés, hein, on était toutes les deux avec Anne-Lise. Moi, j'étais sur vraiment le côté artistique, choix des œuvres, écriture et tout. Mais Anne-Lise s'est occupée de toute la compta, de toute la gestion. Et puis, on a été aidés par des amis qui font du marketing aussi. Pour moi, des trucs qui me dépassent totalement, mais qui sont importants. Mais du coup, moi, j'ai trouvé ça chouette de faire ça vraiment en toute indépendance, qu'avec des copines, en fait, quoi. C'est aussi vachement précieux par rapport à moi, mon expérience de travail que j'ai eue avant, tu vois. J'ai bossé dans ces galeries horribles où je me suis fait bolosser parce que voilà, j'avais pas de particules et je connaissais pas les codes et on me traitait mal. Ensuite, j'ai fait des boulots alimentaires à Berlin. Voilà, et là, c'est la première fois de ma vie que j'en vis pas encore, mais que le travail, c'est un truc cool avec des gens que tu choisis et qui croient en ce que tu fais et où tu as des. Tu prends les décisions de A à Z et tu crées un truc, quoi, littéralement. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais... Et ça, c'est assez précieux, en fait, quoi, par rapport à moi, mes expériences de boulot avant, qui étaient... comme beaucoup de gens, hein. Je veux dire, c'est globalement, c'était du salariat un peu nul, quoi. Enfin, tu vois, où tu t'enrichis des gens beaucoup trop riches, tu bosses pour d'autres, c'est pas tes projets, t'as pas voix au chapitre. Et ça m'a convenu, hein, pendant longtemps, hein, mais parce que je savais pas aussi que c'était possible que le travail soit cool, tu vois. C'est un luxe inouï, hein, de dire ça, hein, tu vois. Mais du coup, moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette expérience pour ça. C'était aussi la première fois que je gagnais de l'argent autour du podcast, pas avec le podcast directement, mais autour du podcast, de l'argent qui sert à financer les prochaines saisons, du coup, et c'est super, parce que sans ça, ça aurait été compliqué. Mais ça a été vraiment très, très gratifiant. Ouais.
Et comment t'en es arrivée après à lancer un Patreon ?
C'est un peu le même souci, c'est que moi, le podcast me coûte cher parce que je rémunère toutes les personnes qui interviennent, parce que le travail gratuit, c'est nul. Donc je rémunère, on m'entend ? Ouais. Je rémunère La personne qui fait le mixage, l'ingé son, la personne qui fait les transcriptions, je rémunère, enfin voilà quoi, toutes les personnes en fait qui interviennent dans le podcast sont rémunérées. Et moi j'avais donc mon job alimentaire jusqu'à décembre dernier, qui était très bien parce que j'étais mal payée mais je travaillais très peu. Et en fait j'ai été licenciée à cause du Covid en même temps qu'une trentaine de personnes. Et donc j'ai perdu ma source de revenus, je me suis retrouvée au chômage. Et là le chômage se termine dans pas très longtemps. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen en fait, d'avoir un revenu régulier. Le podcast m'en apporte pas vraiment parce que y a un petit peu de pub pré-roll, post-roll. Enfin, c'est de la pub générique en fait, mais honnêtement, c'est bien quand ça tombe, mais c'est pas un truc sur lequel je peux compter. Il y a très peu de sponsoring, c'est-à-dire de la publicité, comment on appelle ça, personnalisée entre guillemets, quoi, où je vais parler.
Le fait quand c'est par exemple toi qui vas promouvoir un produit ou un service.
Oui, voilà, c'est ça,
où je
vais faire la pub d'une marque. Voilà. Il y en a très peu parce que moi, j'ai un positionnement qui est quand même assez clair. Et moi, enfin, je ne vais pas faire de la pub, tu vois, pour des banques ou des assurances. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Et en fait, il y a assez peu de marques avec qui ça colle, en fait, tout simplement. Avec qui, moi, politiquement, je me dis que c'est pas déconnant, en fait, de mettre cette marque en avant. Il y en a très peu. Et il y en a quelques-unes qui sont super, mais qui me disent, nous, on aimerait bien, mais on n'a pas l'argent. Donc, enfin, voilà. Donc, c'est finalement, la publicité, c'était pas du tout. Dans mon cas, en tout cas, pour d'autres, ça marche. Dans mon cas, ce n'était pas du tout quelque chose de viable. Donc, à partir de là, tu te dis, c'est quoi les autres moyens ? Et Patreon, j'ai trouvé ça super parce que personne n'est obligé de le faire. Ce n'est pas du tout une injonction. Moi, je ne voulais pas rendre le podcast payant. Ce n'était pas une possibilité. Ça va complètement à l'encontre de moi, ce que j'essaye de faire, quoi, de rendre les choses accessibles, de vulgariser. Enfin, tu vas pas faire payer, ça n'a pas de bon sens, quoi. Donc, c'est vraiment pour les gens qui veulent et pour les gens qui ont les moyens. Le contenu reste gratuit, le podcast reste gratuit. Et moi, ça me permet de... Bon, on n'en est pas encore au stade où j'en vis et tout, mais si ça arrive un jour, c'est super, et sinon, je ferai avec, c'est pas grave. Mais moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui permet de rester indépendant et qui n'a pas vraiment d'équivalent. Enfin, dans mon cas, en tout cas, je pense que c'était vraiment la meilleure solution, quoi. Je ne dis pas ça pour faire de la pub à Patreon, quoi. Mais je veux dire, dans mon cas, c'était vraiment une solution salutaire. Ouais.
Et comment tu l'organises, du coup ? Parce que c'est souvent cette question des contreparties qui prend aussi beaucoup de temps à les imaginer et après à les produire, les distribuer, etc. Donc, qu'est-ce que tu proposes, par exemple ?
Il y a plusieurs niveaux, enfin, je ne vais pas tout les détailler, je ne suis pas là pour faire ma pub, mais il y a les posts et les stories Instagram en avant-première. Bon, vu que je poste tous les 4 matins, ce n'est pas très très fourni. Il y a des articles tous les mois qui sont des articles de 8-10 pages sur des sujets. Là, le dernier que j'ai fait, c'est quoi ? C'était sur l'érotisation des femmes mortes dans l'art. Avant, j'en ai fait un sur la culture du viol autour d'une sculpture qui représente l'enlèvement de Proserpine, qui est une sculpture très connue, horrible, où en fait on voit la victime qui pleure et tout le monde s'extasie sur cette sculpture en disant que c'est merveilleux. Et voilà, bon. Et oui, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'y mets beaucoup de soin. Et c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant de se dire que t'as passé une semaine sur un truc et qu'il est lu par 15 personnes. Bon, voilà, c'est un peu frustrant. Mais je pense que c'est des choses qui seront recyclées d'une façon ou d'une autre à un moment. Je sais pas encore comment. Pour moi, ça avait du sens aussi de proposer en contrepartie du contenu et pas justement encore des objets, encore des... Moi, j'adore les goodies, c'est pas ça, mais c'est pas une critique, je veux dire, mais... que ça ait du sens pour moi aussi et de pas proposer des trucs en plastique, des trucs que les gens vont peut-être balancer. Donc c'est vrai que ça prend du temps, mais je me répète, mais c'est ce qui a le plus de sens pour moi. Ouais.
Vous avez aussi, avec Léane qui était là ce matin, mis en place une espèce d'offre commune. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu, je sais pas comment ça s'est créé, comment...
Ça s'est venu, je sais plus, c'est venu assez naturellement en discutant. On s'était jamais rencontrés avec Léane, on s'est rencontrés à la première rencontre Patreon le mois dernier, mais on se parle souvent sur Instagram et tout. Et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était un bon moyen de se soutenir mutuellement, en fait. Simplement, l'idée c'était d'unir nos forces, en fait. encore une fois, pour les gens que ça intéressait, parce qu'il n'y a aucune obligation, quoi, mais de faire une formule qui rassemblait mon contenu et le sien. Et voilà, c'était juste pour se soutenir mutuellement, parce que bah, voilà, on dit toujours la sororité, c'est un peu un mot voilà, qu'on dit à toutes les sauces. Et bah, là, c'était l'occasion de faire un truc vraiment où on se soutenait toutes les deux, quoi.
Du coup, je me dis, est-ce que, comme il y a quand même pas mal de monde, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que... Il y avait une...
Podcast préféré.
Je vais pleurer.
Et j'aimerais, j'aimerais beaucoup savoir bah, quel sera le prochain thème du prochain épisode, si vous le savez ou pas.
Je sais pas. Franchement, j'ai un Google Doc où il y a, je crois, 54 sujets d'épisode. Et puis, en fait, je suis pas du tout organisée, donc je suis là. Ah ouais, ça c'est super. Puis je m'y mets deux jours, et puis après, je passe à autre chose. Enfin bref. Et honnêtement, non, mais sur un registre plus sérieux, je veux pas me plaindre ou quoi, mais je me suis permise de l'épisode de Picasso. Ça fait 4 mois, hein, va falloir passer à autre chose, mais j'ai du mal. Et voilà, je me prends un peu de... Je travaille, hein, mais je veux dire, je travaille pas précisément sur un épisode. Je peux vous donner des idées de thèmes qui seront dans les 3-4 prochains. Il y a l'archétype de la femme fatale dans la peinture, qui est super intéressant parce que ça voit le jour au 19e. Je vais pas faire une thèse, hein, j'explique. Non, mais j'explique parce que c'est intéressant. Qui voit le jour au 19e en parallèle avec la montée des féminismes. Et en fait, le fait qu'on monte cette idée de femme serpent, femme pernicieuse, vicieuse, toxique, machin, c'est un peu une forme de backlash de mouvements sociaux qui sont bien réels. Donc c'est super intéressant. Mais l'experte m'a pas répondu, donc j'attends. Qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura aussi l'homosexualité dans l'art. Ça, j'aimerais beaucoup, mais pareil, j'ai contacté deux experts qui m'ont pas encore répondu. J'attends. Je crois que c'est vraiment les deux gros sur lesquels je suis déjà bien avancée. Mais voilà, pour les autres, j'en ai 54. Ça va se faire au fur et à mesure, quoi.
Ok, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ?
Bonjour. En fait, j'avais une question et qui a déjà été un peu répondue. Juste pour savoir comment tu fais tes choix de sujets pour tes podcasts. Enfin, après, comment ça s'articule dans le sens de féminisme plus déconstruction, ça s'entend tout de suite. Mais du coup, à partir de ces deux éléments-là, comment tu fais tes choix de sujets avec ça ?
Ben c'est la première contrainte, c'est vraiment de trouver des sujets sur lesquels il y a des livres et dont la personne est vivante, et donc de pouvoir l'interviewer et qu'elle me dise oui, parce que ça fait déjà beaucoup de contraintes. Et donc déjà ces sujets, je les choisis parce que de base il y a ce que tu disais, une intersection entre histoire de l'art et féminisme, et je vais pas faire un sujet sur le château de Versailles. Enfin, pourquoi pas s'il y a des choses intéressantes à dire en termes d'oppression, quoi. Mais oui, il y aurait d'ailleurs. Mais bon, bref. Donc ça, c'est le premier critère. Après, honnêtement, bah, c'est ce que je dis, c'est vraiment du bricolage. Donc ça se fait beaucoup au gré de... Bah, telle personne m'a répondu, telle autre c'est en stand-by. Telle personne m'a répondu, mais c'est en anglais. Du coup, c'est plus compliqué à faire parce qu'il faut prévoir un doublage et du coup un budget plus grand. Donc bah, ça va peut-être attendre un peu. C'est vraiment des choses très triviales, entre guillemets. Enfin, j'aime pas ce mot. Enfin, c'est juste la vraie vie, en fait, quoi. C'est juste... Et puis... Ouais, c'est vraiment... Il y a aucune cohérence, en fait. Je veux dire, dans l'ordre des épisodes, il n'y a pas du tout... il ne faut pas les écouter dans l'ordre. C'est vraiment... Ça se fait au gré des disponibilités, des budgets, des gens qui répondent ou pas. C'est vraiment très, très artisanal, quoi. Ça répond à ta question ?
Ça répond un peu à ma question. Après, de ce que je comprends aussi, c'est que tu as quand même besoin d'avoir un interlocuteur, enfin, en tout cas, une personne qui est spécialisée dans le sujet qui t'intéresse, pour ouais. animer ton podcast. Tu ne peux pas non plus te lancer sur un sujet, même... si t'es entre guillemets spécialisé ou non, comme ça toute seule t'as quand même besoin d'être accompagnée entre guillemets dans ton sujet.
Ben, en fait c'est que moi je suis experte de rien, je peux pas m'autoproclamer experte de la grossesse dans l'art ou de Picasso. Enfin, c'est pas parce que j'ai lu 3 bouquins que je suis en mesure toute seule tu vois, de faire un monologue dessus. Donc non, évidemment, ça fonctionne que s'il y a des invités qui sont expertes et qui acceptent de me donner trois quarts d'heure de leur temps. Je les rémunère même pas, en plus, les invités. Ça, je leur offre un agenda, bon. Et donc, ça a été dès le début. Je me suis posé la question, tu vois, quand le podcast était encore un projet, quoi, une idée, et c'est venu très vite, parce que moi, j'assume pas du tout, je suis pas légitime, en fait, à prendre la parole sur des sujets... Après, je sais pas, d'autres le font et c'est très bien. Moi, j'aime bien en fait qu'il y ait des experts et que ça se fasse comme ça. Et moi, je rajoute ma sauce évidemment et je rajoute. Tu connais. Mais oui, c'est vrai que c'est le podcast est dépendant du fait qu'une personne accepte mon invitation. C'est vrai.
D'accord. Bah, merci beaucoup pour tes plaisir. Réponses. Bonjour.
Bonjour.
Je me demandais si tu avais déjà eu des retours d'enseignants ou enseignantes en école d'art ou autres, des choses liées. Si tu savais si ça avait pu avoir un petit impact ou si on t'en a parlé. Et si tu savais si aujourd'hui les choses commençaient un peu à changer dans ces écoles, s'il y avait des enseignements qui commençaient un peu à aborder ça. Et voilà.
Ouais, j'en ai eu pas mal. J'ai une copine qui est prof d'art plastique qui au début m'a dit longtemps écoute, moi je n'ose pas trop en parler à mes élèves parce que c'est des 4e, 3e et Vénus et Piétel la chatte, ils vont ricaner et ça va être un enfer. Et moi je me sentais trop bête parce que je n'avais pas du tout pensé à ça. Et puis en fait elle m'a dit bon, j'ai balancé ça, voilà, ça s'appelle comme ça en laissant pas du tout de place et puis elle m'a dit c'est passé comme une lettre à la poste. Et ouais, plusieurs personnes m'ont écrit, notamment pour les épisodes sur Frida Kahlo et Picasso, qui sont en fait des figures que les élèves connaissent en général, où souvent c'est Picasso, c'est le nom de leur collège, voilà. Donc, en me disant que il et elle faisaient écouter des extraits de l'épisode ou le recommandaient en parallèle. J'ai eu des profs d'espagnol qui en fait me disaient on étudie Guernica et du coup je suis un peu emmerdée pour Guernica, quoi. Je sais plus trop quoi faire, donc j'en parle quand même parce que c'est au programme, mais du coup je suggère aux élèves d'écouter aussi en parallèle ton podcast. Après je sais pas, tu vois, moi je à ma très petite échelle, je suis contente de contribuer. Est-ce que les choses changent? Bon, pour ce qu'il y a eu un César l'année dernière, donc voilà quoi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cet épisode sur Picasso, il a ouvert quelque chose. Je sais pas encore très bien quoi et tout, mais c'est compliqué pour moi de me rendre compte. Mais je sais pas si ça répond à ta question, mais moi, je suis super honorée en fait. Que ce travail serve de support pour des profs. C'est pas du tout un truc auquel j'avais pensé en le faisant. Et en fait, c'est tout à fait dans la vocation de ce travail. Et je trouve ça super. Et c'est vraiment un honneur, en fait, que des profs puissent l'utiliser pour faire passer des choses. Je trouve ça super. Je sais pas si ça répond à ta question.
Oui, oui, exactement. Merci.
Ok.
Tu parlais de à quel point Picasso, ça avait... jouer sur ta vie personnelle. Ouais. À quel moment tu arrives à te dire tu es subjective ou objective dans ce que tu fais? Parce que forcément ça touche en tant que femme et en tant que personne qui a étudié l'histoire de l'art. Mais à quel moment tu arrives à te stopper et te dire non mais là je peux pas en parler parce que c'est mon point de vue?
C'est une bonne question, mais je sais pas, j'arrive pas trop à y répondre. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, j'ai pas inventé le truc. Et tu sais, pour moi, c'est important de dire je, de parler de mon point de vue. Donc, il y a toujours moi, ce que je ressens et tout. Après, pour Picasso, oui, clairement, j'ai pas de sympathie pour lui, mais je pense que je me mets une limite, mais qui est juste, enfin, que tu te mets dans la vie quotidienne aussi. C'est que je me suis dit, je vais pas l'insulter. Je vais pas. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu basiques et tout. Non, ce qui était difficile, c'était de dépasser la colère.
qui en plus me concernait pas. Moi, il m'a rien fait, hein, Picasso, mais ça m'a mise quand même vachement en colère pendant des mois de me rendre compte de tout ça, de dépasser la colère pour essayer d'avoir une analyse un peu plus globale. Enfin, bon, c'est toujours compliqué, mais même limite d'utiliser cette colère pour dire bah non, c'est pas Picasso et non, c'est pas un monstre parce que bah, c'est systémique. Enfin, tu vois. Donc finalement, je pense que j'en parlerais pas de la même façon si j'étais un mec qui a fait une école de commerce, que je serais alors Picasso. Enfin, tu vois, c'est. Je pense que justement, le fait que ça me touche et que je me sente concernée, même si je ne le suis pas, c'est ça qui me permet aussi d'avoir une réflexion peut-être. Enfin, ça a l'air très prétentieux ce que je dis comme ça, mais d'essayer d'avoir une réflexion un peu globale, quoi. Mais après, sur le mal que ça m'a fait, encore une fois, je ne me plains pas, je ne suis pas en train de pleurnicher ou quoi, mais je ne me suis pas rendu compte sur le moment. En fait, quand il est sorti, déjà, il a eu énormément d'écoute, beaucoup plus que les autres. Moi, j'ai pas compris ce qui se passait, quoi. Et puis tous les retours et tout. Et puis surtout, moi, j'étais crevée, en fait. J'étais épuisée et je me suis rendu compte que j'avais passé 6 mois à, tu sais, un peu à m'oublier, un peu à me mettre de côté pour pondre ce truc. Et c'est vrai que j'ai eu un peu le contre-coup quand il est sorti. C'est pour ça que là, il y en a pas qui sortent et il y en aura d'autres, hein. Évidemment qu'il y en aura d'autres. Mais là, je suis encore en train d'atterrir, quoi. C'était un travail titanesque, en fait, quoi. Enfin, ouais.
Je te remercie.
Une dernière question.
Qu'est-ce que tu penses de la responsabilité des écoles et des licences en histoire de l'art, du coup, par rapport au sujet que toi, tu traites? Est-ce que tu recommandes quand même, par exemple, aux gens d'aller dans des licences d'histoire de l'art, ou est-ce que, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Je recommande. Moi, j'ai pas à dire aux gens quoi faire de leur vie. Après, oui, les études d'histoire de l'art, moi, j'ai bien aimé. Il y a des choses que j'ai pas aimées, mais enfin, comme toutes les études. Non, la responsabilité. En fait, c'est tout un système, quoi. C'est que les études d'histoire de l'art, c'est déjà un entre-soi. C'est déjà un entre-soi relativement blanc bourgeois. Du coup, les personnes qui ensuite vont travailler dans les musées et ensuite enseigner sont les mêmes. Enfin, tu vois, c'est une répétition infinie, en fait. Je sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'on m'appelle et qu'on me dise viens enseigner. Enfin, pas enseigner, mais viens faire un séminaire dans mon école et tout. Personne ne me propose, ou moi ou d'autres. Hein, c'est pas, tu vois. Mais il y a plein d'autres personnes qui réfléchissent à ces sujets-là. Je pense que c'est comment dire. Il y a une forme de confort aussi à rester dans une forme d'inertie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas mal intentionnés, mais qui ne savent pas quoi faire, qui ne sont pas forcément soutenus par tout un système, toute leur hiérarchie ou quoi, et que du coup, on ne va rien faire. Mais c'est un peu, le parallèle est douteux, mais c'est un peu comme l'expo Rodin-Picasso là, qui est en ce moment. C'est de la paresse. Ce n'est pas des gens méchants qui, voilà, simplement, ça rapporte du pognon, ça fait venir des gens. Ça demande pas trop de travail, ça demande moins de boulot que de faire une expo sur la culture du viol, parce qu'il faudrait former le personnel des musées, il faudrait faire intervenir des consultants extérieurs. Et je pense qu'il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas c'est lent, pour toutes ces raisons-là, en fait. Un manque de moyens, un manque de qu'est-ce qu'on fait, par où on commence, on ne sait pas quoi faire, du coup on ne va rien faire. Je ne leur jette pas à la pierre, hein, moi aussi je fais ça, hein, mais du coup il n'y a rien qui tire, en fait, quoi. Et moi, je suis effarée. Il y a une asso LGBTQIA+, à l'école du Louvre, qui s'appelle Mauvais Genre, qui est super. Du coup, on se parle de temps en temps. Vraiment, moi, je les trouve super, et je trouve que c'est vraiment génial qu'ils aient fait ça dans cette institution qui est ô combien traditionnelle. Et voilà. Et je leur disais, mais comment ça se passe, vous, en fait, les cours d'iconographie où on explique de quoi il est question et tout? Est-ce qu'il y a un angle de genre, de race, qui est inclus, en fait? Parce que moi, c'était il y a plus de 10 ans et il n'y avait rien. Est-ce que 10 ans après, ça a changé? Et non, ils sont là, genre non, ça n'existe pas. Enfin, c'est un impensé, en fait. Et ce n'est pas des gens méchants, il n'y a pas un complot. C'est juste que on ne sait pas par où commencer, du coup, bah, c'est lent, quoi.
Merci beaucoup, du coup, Julie, pour
merci beaucoup.
Ton temps.
Et merci à tout le monde d'être venu si nombreux, je suis vraiment dans tous mes états, quoi. Non, mais merci beaucoup.
Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient là, à Noémie Gmur et au Paris Podcast Festival d'avoir organisé tout ça. Et merci à vous d'avoir écouté ce bonus de Vénus et Piétel la chatte. Je vous embrasse si vous le voulez bien, et à très vite, cette fois vraiment très vite, pour un nouvel épisode.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.